Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1856, L'Ancien Régime et la Révolution est l'un des grands essais d'histoire politique d'Alexis de Tocqueville. L'ouvrage ne raconte pas la Révolution française comme une simple suite d'événements, mais comme le résultat d'une longue évolution sociale et administrative commencée sous l'Ancien Régime. Tocqueville y étudie les institutions, les mœurs, les privilèges, la centralisation et les tensions entre groupes sociaux pour comprendre pourquoi 1789 a éclaté en France et non ailleurs avec la même intensité. Son propos est à la fois historique et analytique, montrer que la Révolution a hérité de structures monarchiques qu'elle prétendait abolir, tout en révélant les dangers politiques d'un pouvoir central trop fort. Ce livre s'adresse autant aux lecteurs d'histoire qu'à ceux qui s'intéressent à la sociologie politique, à la formation de l'État moderne et aux conditions de la liberté dans les sociétés démocratiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la Révolution comme prolongement de l'Ancien Régime, la thèse la plus célèbre du livre, consiste à refuser l'idée d'une coupure absolue entre 1789 et le monde d'avant 1789. Tocqueville montre que la Révolution n'a pas jailli du néant, elle a repris, simplifié ou accéléré des transformations déjà engagées sous la monarchie, la centralisation administrative, l'affaiblissement des pouvoirs locaux et la concentration des décisions à Paris avaient préparé le terrain à un changement radical. Autrement dit, l'Ancien Régime a contribué à fabriquer les instruments de sa propre disparition. Cette lecture est importante car elle déplace la question des causes de la Révolution au lieu de chercher seulement un événement déclencheur. Tocqueville examine des évolutions longues, souvent invisibles au premier regard. Il propose ainsi une histoire des structures plus qu'une histoire des crises immédiates. En soulignant cette continuité, il explique aussi pourquoi certaines pratiques administratives et certains réflexes politiques ont survécu après la chute de la monarchie, donnant à la France révolutionnaire puis post-révolutionnaire une forte permanence étatique. Deuxièmement, une méthode fondée sur les archives administratives et les mœurs. L'originalité du livre tient aussi à sa méthode. Tocqueville ne s'appuie pas d'abord sur un récit politique classique ni sur de grands épisodes héroïques. Il lit des cahiers de doléances, des procès-verbaux, des correspondances administratives et des documents produits par les institutions. Cette approche lui permet d'observer la pratique réelle du pouvoir, au-delà des discours officiels. Ce qu'il cherche, ce sont les rapports concrets entre les classes, la manière dont les affaires se traitaient, les attentes collectives et les habitudes des gouvernements. Il parle en ce sens d'une étude de mœurs, comprendre comment les comportements sociaux, les sensibilités et les routines administratives façonnent la vie politique. Cette méthode est essentielle car elle donne à son analyse une profondeur particulière. Au lieu de réduire la Révolution à une série d'idées abstraites, il relie les idées à des conditions sociales précises. Le livre devient ainsi une enquête sur la texture même de la société française à la veille de 1789 et non une simple narration des faits révolutionnaires. Troisièmement, centralisation monarchique, noblesse déclassée et montée des frustrations sociales. Tocqueville insiste sur un paradoxe majeur, la monarchie absolue a affaibli les pouvoirs intermédiaires tout en renforçant l'appareil d'État, mais elle n'a pas supprimé les privilèges sociaux. La noblesse conserve des avantages fiscaux et symboliques, alors même qu'elle perd une partie de ses fonctions politiques et administratives. Cette situation crée une tension durable. D'un côté, une aristocratie vidée de sa responsabilité historique. De l'autre, une bourgeoisie plus active, plus instruite et souvent plus prospère, mais tenue à l'écart des privilèges. Tocqueville y voit une cause profonde du ressentiment social. Le problème n'est pas seulement l'inégalité en elle-même, mais le décalage entre la réalité des fonctions et celle des droits. Quand les privilèges paraissent détachés du service rendu, ils deviennent politiquement insupportables. L'auteur explique aussi que la centralisation a rendu les réformes plus visibles et donc plus frustrantes. Chaque ouverture partielle faisait monter les attentes sans résoudre les blocages. Le système monarchique, en modernisant ses outils, a donc rendu plus nette l'injustice qu'il prétendait gérer. Quatrièmement, la prospérité sous Louis XVI comme accélérateur de la crise. L'un des aspects les plus fins de l'analyse de Tocqueville est son refus d'expliquer la Révolution uniquement par une misère généralisée ou par une tyrannie écrasante. Il souligne au contraire que la période de Louis XVI connaît aussi des signes de prospérité relative et une volonté de réforme. Ce contexte est décisif lorsqu'un régime semble s'assouplir, les attentes croissent plus vite que les changements réels. Les réformes annoncées donnent de l'espoir, mais elles révèlent aussi l'inertie des structures existantes. Au lieu de calmer la contestation, elles peuvent l'intensifier en rendant les limites du système plus évidentes. Tocqueville s'intéresse donc aux effets politiques du progrès incomplet. Une amélioration partielle ne stabilise pas toujours un ordre ancien. Elle peut au contraire l'exposer. C'est pourquoi il ne voit pas la Révolution comme une simple explosion de détresse, mais comme la conséquence d'une tension entre une société qui se transforme et des institutions qui ne suivent pas. Cette analyse rend son livre particulièrement puissant. Il montre comment l'avancée économique ou administrative peut, dans certaines conditions, précipiter la crise politique. En dernier lieu, corps intermédiaires, individualisme et risque de dérive autoritaire, Tocqueville accorde une importance majeure aux corps intermédiaires, c'est-à-dire aux institutions locales, aux associations, aux ordres et aux liens sociaux qui relient l'individu à l'État. Selon lui, la révolution, en détruisant une partie de ses médiations traditionnelles, peut isoler les citoyens au lieu de les émanciper durablement. L'individu se retrouve alors seul face au pouvoir central, plus vulnérable à l'apathie politique et à la recherche d'intérêts privés. Tocqueville ne dénonce pas seulement la disparition des privilèges. Il avertit aussi contre la désagrégation du tissu civique. Si les citoyens ne partagent plus de responsabilités communes, s'ils ne disposent plus d'espace d'action collective, ils risquent de se replier sur leurs affaires particulières et de laisser l'État occuper tout l'espace public. C'est là que son analyse dépasse l'histoire française, elle devient une réflexion sur les démocraties modernes. Pour Tocqueville, la liberté ne se maintient pas spontanément. Elle dépend de médiation sociale et d'une culture politique active. C'est pourquoi son livre relie la révolution à une interrogation plus vaste sur les conditions qui empêchent une société égalitaire de glisser vers un pouvoir centralisé et potentiellement liberticide. En conclusion, l'Ancien Régime et la Révolution doivent être lus par tous ceux qui veulent comprendre la Révolution française autrement que comme une simple rupture spectaculaire. Le livre intéressera les lecteurs d'histoire, de philosophie politique, de sociologie et plus largement toute personne qui cherche à saisir comment des structures anciennes peuvent survivre à un bouleversement révolutionnaire. Sa valeur tient moins à un récit événementiel qu'à une lecture profonde des mécanismes sociaux, institutionnels et mentaux qui produisent les transformations politiques. Il offre ainsi un bénéfice intellectuel durable, apprendre à repérer les continuités sous les crises, à distinguer les réformes réelles des changements apparents et à mesurer le rôle décisif de la centralisation. Ce qui le distingue de nombreux ouvrages sur la Révolution, c'est sa capacité à lier analyse historique et réflexion sur la liberté moderne. Tocqueville ne se contente pas d'expliquer le passé. Il éclaire aussi les risques contemporains liés à la bureaucratie, à l'individualisme et à l'affaiblissement des corps intermédiaires. C'est cette portée à la fois historique et politique qui fait du livre un classique toujours actuel. Si vous souhaitez soutenir Alexis de Tocqueville, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.